Chapitre 4. Le mariage. Théodose était mort, ses fils étaient empereurs. Honorius, encore enfant, en Occident, Arcadius, jeune homme de 18 ans, en Orient. Théodose avait placé à côté de ce dernier Rufin comme conseiller. Mais Rufin était le maître absolu. Son ambition et son avarice n'avaient jamais eu de borne que celle qu'il craignait de se voir imposer. Cette crainte s'évanouit en présence du jeune Arcadius. Rufin visait à la pourpre qui avait plusieurs fois déjà changé un parvenu en César Auguste, et il avait en vue le mariage de sa fille unique avec l'empereur. Tout l'Orient gémissait de son oppression, de son injustice brutale, de ses exactions, de sa conduite tyrannique à l'égard de ceux qui ne se courbaient pas servilement sous son joug. Mais comme le tigre terrible reçoit la mort d'un petit serpent, ainsi tomba le puissant Rufin. Il était le maître de l'empereur, mais il n'en était pas le favori. Sa place était occupée par un affranchi, un Arménien, qui, après avoir été employé longtemps dans les écuries impériales comme infime valet, était passé au service du général Arinthéus, où il avait montré une grande adresse dans l'art de friser les cheveux. Arinthéus en fit présent à sa fille quand elle se maria, et Eutrope, c'était le nom de cette esclave, eut dès lors pour emploi de crêper et de boucler les cheveux de sa maîtresse. Mais elle se fatigua de lui, et comme il était désormais impossible de le revendre à cause de sa laideur et de son âge, elle lui donna la liberté et l'abandonna à la pauvreté. Cependant, Eutrope trouva un protecteur dans le général Abindantus, qu'il avait vu autrefois chez Arinthéus et qui eut compassion de ce malheureux. Il l'employa dans le palais impérial aux fonctions les plus infimes. De ce jour-là, Eutrope se sentit sur son vrai terrain. Cet être, difforme de corps et d'esprit, brûlait d'une vanité qui n'aurait jamais pu s'assouvir et qui en entrevoyait maintenant la possibilité. Il sut si bien se pousser en rampant et en glissant qu'il parvint à se faire admettre au dernier rang de l'entourage personnel de l'empereur Arcadius, et à force d'attention à chaque mot, à chaque signe, il réussit à se faire remarquer de ce jeune souverain inexpérimenté. Eutrope regarda la partie comme gagnée. Il demanda la faveur de quitter le service de la garde-robe où il avait été occupé jusqu'alors pour compter parmi les serviteurs plus intimes du monarque, ce qu'Arcadius lui accorda volontiers. Dès lors, Eutrope avait pris pied. Au chaud rayon de la faveur souveraine, sa vanité s'enfla à mesure qu'elle obtenait ce qu'elle désirait. Mais au lieu de se calmer, elle ne faisait que s'irriter de plus en plus. Rufin, dans son orgueil dédaigneux, ne faisait pas attention à la petite vipère qui, à l'ombre du trône, le menaçait de son dard. Il continua ses actes de dédain et de violence qui lui attiraient la haine la plus profonde du peuple tout entier, des grands comme des petits, des pauvres comme des riches. Cela ne pouvait l'émouvoir. Il était devenu préfet du prétoire à Constantinople et possédait ainsi les plus hautes dignités de l'Empire. Ses complices, ceux auxquels il avait vendu des emplois et des charges, formaient un nombreux cortège de partisans qui le défendaient et le soutenaient. Quelques mois après la mort de Théodose, il crut venu le moment de réaliser le mariage d'Arcadius avec sa fille, et il chercha à gagner à son plan les courtisans, qui avaient tout à espérer et à craindre de lui, afin que le jeune monarque fût poussé à fixer son choix sur la fille de Rufin. Les courtisans entrèrent ardemment dans les vues du puissant ministre, et dès ce moment, ce fut aux oreilles d'Arcadius un concert de louanges et d'admiration sur les mille qualités de la jeune personne. Mais l'empereur n'avait pas la moindre inclination pour elle ni pour cette alliance, car Sylvina lui plaisait aussi peu qu'il aimait son père. Il considérait Rufin comme un homme d'état habile. Il avait une haute idée de son intelligence, mais il n'avait pas pour lui cette confiance que la jeunesse accorde volontiers à un ami expérimenté. Aussi ne désirait-il pas devenir le gendre de Rufin. D'ailleurs, Eutrope lui avait parlé d'une autre jeune personne incomparable pour la beauté et pour l'esprit, la seule qui fût digne de partager avec l'empereur le trône d'Orient. Par mille petits détours, par toutes sortes de fines insinuations, sans toutefois permettre à personne de soupçonner son plan, Eutrope avait su se procurer le portrait de Doxia. Il le montra à l'empereur. Arcadius fut transporté de tant de beauté et s'abandonna entièrement à ce charme. Rufin vint à s'absenter pour accomplir en personne un de ses actes ordinaires d'iniquité. Il était parti pour Antioche, où le noble comte Lucien commandait l'armée de Syrie. Agissant suivant les principes du devoir et de la conscience, fermant l'oreille aux suggestions injustes, celui-ci se montrait inaccessible à la corruption. Un tel homme devait disparaître. À peine arrivé à Antioche pendant la nuit, Rufin fit arrêter le comte, le fit comparaître à sa barre, et sans motif, le fit fouetter si cruellement qu'il expira sous les coups des exécuteurs. La ville se souleva contre une pareille abomination. Pour la calmer, Rufin fit bâtir une colonnade qui surpassait en magnificence toutes les splendeurs d'Antioche. Ensuite, il partit. À son retour, il apprit avec le plus grand plaisir que la cour et la ville se préparaient à la fête du mariage de l'empereur, dont le jour était fixé au 27 avril. Le nom de l'impératrice future était encore inconnu. Cela pouvait paraître un peu étrange à Rufin. Son épouse n'avait pas été le moins du monde informée des vues de l'empereur, et Arcadius gardait envers lui-même le plus profond silence. Telle était déjà l'influence d'Eutrope qui voulait se ménager un malin plaisir de la défaite radicale du puissant ministre et lui montrer qu'il avait un rival heureux auprès du souverain. Cependant, aucun doute ne s'élevait dans l'esprit orgueilleux de Rufin. C'était un tyran domestique qui ne savait pas apprécier que toutes les personnes de sa famille, sa femme, sa fille et sa sœur avaient des sentiments nobles et délicats et cherchaient, à force de larmes, de prières et de bonnes œuvres, à racheter ses mauvaises actions. Elles appartenaient à ce noyau de femmes d'élite qui, autrefois, à Constantinople comme à Rome, pénétraient de l'esprit du christianisme qui vivait dans leur cœur et se manifestait dans leur vie, apparaissaient comme des figures tout à fait idéales et vraiment touchantes, à une époque où la multitude suivait le courant du matérialisme païen bien plus que les voies du christianisme. Rufin ordonna à sa femme de parer Sylvina et de lui donner un entourage digne de la fiancée qui va recevoir les ambassadeurs de son impérial époux. Sylvina, ainsi que sa mère et Sylvia, sœur de Rufin, tremblaient à la pensée des hauteurs auxquelles Rufin aspirait, mais elles obéissaient humblement, sans répondre et sans se plaindre. D'ailleurs, ils ne pouvaient entrer dans leur pensée de repousser la demande de l'empereur. Le jour fixé parut. Un des jours de printemps les plus radieux qui ait jamais réjoui les rivages de la Propontide. La terre, la mer, le firmament brillaient d'un magnifique éclat et semblaient noyés dans la lumière. Tout Constantinople était en fête et en mouvement, les rues et les places regorgeaient de curieux. La mer était sillonnée de barques qui ramaient vers Constantinople de tous les points de la côte de Chalcédoine et de Bithynie. La masse du peuple s'assemblait autour du palais de Rufin. Dans le palais même se pressaient ceux qui avaient à cœur d'être les premiers à complimenter le beau-père de l'empereur et à joindre à l'expression de leurs félicitations des vœux personnels. Dans la cour et sous le portique qui l'entourait se trouvait le groupe de ses serviles courtisans. Les personnages d'un rang plus élevé, mais de sentiments aussi bas, avaient entré dans les appartements sans cependant approcher de Rufin. Ils ne voulaient paraître au milieu d'eux qu'au moment de recevoir leurs hommages. Dans ce palais, cependant, deux personnes avaient des pensées et des sentiments tout autres. C'était Sylvina et sa mère. Pieusement soumises à la volonté de Dieu, le maître de notre sort, elles attendaient la décision, mais sans impatience, sans inquiétude et aussi sans joyeuse espérance. Ce que Sylvina savait par son père de l'empereur, de la cour, de l'entourage du trône, ne lui inspirait aucune confiance, aucun respect, et l'éclat de ce mariage ne pouvait ni fasciner, ni consoler son noble cœur. Du palais impérial, un cortège s'était mis en marche sous la conduite du grand chambellan. Ce dignitaire était Eutrope. Le valet d'écurie était devenu maréchal du palais. Un groupe d'enfants nobles, somptueusement vêtus, portait aux yeux de tous les présents de noces de l'empereur. Sur des plateaux d'or brillaient des colliers de perles d'Orient, de couleur blanche et rose. Des diamants et des émeraudes, des pierres précieuses, des bijoux de toutes couleurs, des parures pour le cou, pour les bras, pour les cheveux, des épingles, des agrafes, en quantité prodigieuse. Dans des coffrets d'argent finement travaillés, on voyait des flacons en albâtre d'Égypte transparent de rose, remplis d'essences odorantes d'une valeur fabuleuse, pour les vêtements, pour les cheveux, pour les mains, et de parfums exquis pour les appartements. Des boîtes plus grandes renfermaient les étoffes de soie, de laine, de lin, unies, soutachées, brochées, brodées, capables de contenter tous les caprices du goût et de la fantaisie. La cour suivait le cortège, et un détachement de la garde impériale accompagnait les présents de l'empereur et ceux qui étaient chargés de les porter. Tout le monde croyait, avec la foule des curieux, que le cortège se dirigeait vers le palais de Ruffin, tant Eutrope avait couvert de mystère son secret et celui de l'empereur. Mais on n'alla pas si loin. Tout à coup, Eutrope fit faire halte devant le palais habité par la veuve de Promotus. Rayonnant d'une maligne joie dans ses habits de fête et sous son phare, il fit ouvrir la grande porte cochère et le cortège disparut au regard déconcerté de la foule ébahie. Ruffin l'avait entendu approcher. Il avait entendu le sourd mouvement, le bruit confus de ses milliers de pas. Tout d'un coup, tout s'arrête. Qu'est-il arrivé? Probablement un petit accident qui sera bientôt écarté. Mais non. Le cortège ne se remet pas en marche. Il n'avance plus de son côté. Et le temps passe. Les cris de joie et les hurrahs qui accueillirent Eutrope, lorsqu'il sortit du palais de Marsas en les présents de noces, furent comme un violent coup de tonnerre qui fit cesser l'attente terrible de Ruffin. « Trahi, trompé !» murmura-t-il en tremblant de colère. Mais il reprit son calme, maîtrisa les sentiments de haine et de rage qui bouillonnaient dans son âme, donna à tous ses partisans réunis chez lui le loisir de s'éloigner silencieusement, et se rendit avec l'air fier et hautain qui lui était habituel auprès de sa femme. Aucun de ses domestiques n'osa lever les yeux lorsqu'il traversa les antichambres. Il semblait que chacun eût peur d'être frappé de la foudre, mais il donna quelques ordres de son ton ordinaire sec et froid, et tous se mirent à respirer plus librement, comme après la tempête passée, quand il entra dans les appartements de sa femme. Elle avait déjà appris par les personnes de sa maison la nouvelle rapidement répandue que Doxia était la fiancée choisie par l'empereur, et Sylvina, avec des larmes de joie, était tombée dans les bras de sa mère et remerciait Dieu du fond de son cœur ému. Ruffin entra en ce moment. Surpris des larmes de sa fille, lui dit d'un air sombre « Tu pleures ? Console-toi, nous ne sommes pas encore à la fin, et tu seras Augusta malgré tout. Oh père, je vous en prie, non ?» bégaya Sylvina, effrayée et séchant ses larmes. « Qui dit non quand je dis oui ?» reprit Ruffin d'un ton brutal comme un coup de marteau. « Je n'ai qu'une enfant. Cet enfant doit porter une couronne. C'est ma volonté inébranlable. » Bouleversée par la lutte des sentiments contraires qui s'agitaient dans son cœur, Sylvina pâlit et tomba sans force et sans connaissance dans les bras de sa mère. Ruffin frappa dans ses mains. Un essaim de servante fit irruption dans la chambre. « Apprenez-lui, dit-il froidement à sa femme, que la volonté du père doit être la loi de la fille. Pourquoi êtes-vous chrétienne si vous ne savez pas cela ?»« Elle n'a pas failli à l'obéissance, répondit la mère avec douceur et émotion, et elle continuera à obéir. Mais soyez indulgent pour cette faiblesse passagère, qui est la suite d'une agitation extraordinaire dans sa vie tranquille. » Pourquoi menez-vous une vie si tranquille que le moindre événement vous bouleverse ? Demanda Ruffin avec dureté. Parce que nous sommes très contentes dans la vie calme et retirée. Faites comme vous l'entendez, mais n'oubliez pas ceci, Sylvina doit occuper un trône. Que cela reste dit. Une agitation bien différente régnait dans le palais de Marsa. Eudoxia avait reçu avec stupéfaction, Marsa avec jubilation, l'ambassade de l'empereur, les présents impériaux. C'est pour moi comme un rêve, dit Eudoxia en parcourant la salle où étaient étalées toutes ces merveilles. Oh non, ce n'est pas un rêve, dit une de ses servantes en levant de ses deux mains un plateau étincelant de perles fines d'Orient. Ce n'est pas un rêve, dit une autre en déployant une étoffe de pourpre brodée de palmes d'or. Ce n'est pas un rêve, fit une troisième avec transport. « Car aujourd'hui même, ô ma maîtresse, vous êtes impératrice d'Orient. »« N'êtes-vous pas joyeuse ?» demanda une quatrième. « S'il m'arrivait quelque chose de semblable, je serais transportée de joie et de bonheur. Et vous ne l'êtes pas. »« Je ne vous ressemble pas, pauvre Aglaé, » dit Eudoxia simplement. « Tous ces joyaux sont beaux, merveilleusement beaux, mais je ne commencerai à me réjouir que quand je serai impératrice. »« Et quand tout l'Empire d'Orient sera humblement à vos pieds ?» dit Marsa en entrant dans la salle. Les pierres fines et les étoffes précieuses font la joie des natures inférieures et des esprits infirmes. Un être comme vous, de haute naissance, et d'un esprit plus haut encore, regarde les plus grands trésors comme quelque chose qui lui appartient de droit, non comme un coup étonnant de la fortune. Allons, maintenant, venez toutes travailler à parer notre impératrice. Dans 3 heures, le cortège viendra la prendre pour la conduire à l'hôtel de Sainte-Sophie et de là au palais Constantin. » Marsa serra avec tendresse Doxia dans ses bras et la conduisit dans les appartements intimes. « En vérité, Promotus, mon mari, lorsqu'il vous a prise dans notre maison, vous, la fille de son noble ami, n'aurez pas cru que vous le vengeriez de son ennemi mortel en faisant, par votre beauté, échouer le plan si orgueilleusement et si chèrement préparé par Ruffin, et en chassant sa fille de la place qu'il avait l'impudence de convoiter pour elle. Voilà quelque chose qui me réjouit beaucoup, fit Eudoxia. Je n'ai rien fait pour venir sous votre tutelle maternelle. Je n'ai, par conséquent, rien pu faire pour humilier jusqu'à terre l'homme qui vous est à juste titre si odieux. C'est Dieu lui-même qui a préparé cette compensation, et je n'oublierai jamais que votre maison était le chemin qui m'a fait monter au trône de l'empereur Arcadius. » Quelques heures plus tard, Eudoxia, plus belle encore sous la brillante parure de mariée, était à côté de l'empereur, dans la magnifique basilique de Sainte-Sophie, et le patriarche Nectaire accomplissait la cérémonie qui donne au mariage la bénédiction de l'Église. Ruffin, le premier des grands dignitaires de l'Empire, ne pouvait se dispenser d'assister à cette cérémonie. C'était un homme remarquablement beau, d'une stature majestueuse et pleine de dignité. Il assista à la cérémonie avec un maintien tranquille, sans perdre un instant son air superbe. Il savait bien pourtant qu'il était l'objet du mépris, de la curiosité et de la maligne joie de tous ceux qui se pressaient dans l'enceinte de Sainte-Sophie. Mais il avait à cœur de ne laisser à personne le plaisir de croire qu'il pût se sentir humilié par un événement quelconque. Et en réalité, ce n'était pas cette impression qui régnait en lui à ce moment. Un caractère comme le sien ne s'arrête pas à ses sentiments. Plus on l'écrase, plus son orgueil téméraire tend à s'élever.